Bonjour et bienvenue sur Parole d'Humanitaire, le podcast fait par un humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, humanitaire spécialisée en projet d'aide au développement et à l'origine de cette initiative. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain pour décrypter les nombreux enjeux de l'humanitaire et de la solidarité internationale, mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers liés à ces domaines. Au programme de ce podcast, découverte, partage de connaissances et retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes ensemble? C'est parti! Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast Parole d'Humanitaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton domaine d'expertise?
Je suis Stéphanie, je suis coordinatrice de Restoring Women Dignity, REODI en sigle, qui est une organisation féminine non gouvernementale de droit congolais. Et on n'a pas choisi le nom REODI ou Restoring Women Dignity par hasard, c'est l'essence de notre mission, restaurer la dignité de femmes. Et nous n'allons pas nous focalisons pas seulement sur la femme, mais nous voulons restaurer aussi la dignité de toute une communauté qui a tout perdu. Et cette idée a commencé par une simple question: comment reconstruire une communauté brisée par la violence? La réponse pour nous, c'est en redonnant aux femmes leur place. Nous croyons fermement qu'en investissant dans le leadership de la femme, dans leur courage, nous croyons que nous pouvons relever la femme. Parce que c'est toute une famille, tout un village qui se relève une fois la femme se relève. Et Restoring Women Dignity se propose de transformer des vies à tout le niveau. Notre mission est de promouvoir la cohésion sociale, l'éducation multisectorielle, la protection de droits humains et la réalisation des actions socio-économiques. Et la vision que nous avons en tant qu'une organisation, c'est de créer un monde dans lequel la dignité des femmes est restaurée. Parmi les domaines d'expertise que nous avons, je peux citer la paix et les droits humains. Mm-hmm. Nous nous focalisons dans la résolution de conflits et la cohabitation pacifique, la défense des droits de femmes et des enfants. Nous focalisons aussi dans la protection des droits de la femme, des enfants et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Et là, nous faisons de prise en charge de victimes et des survivantes, ainsi que les personnes affectées par ces violences. Et nous nous focalisons aussi sur l'égalité des genres, ainsi que le leadership féminin. Nous sommes aussi dans l'éducation, où nous faisons tout pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation de qualité. Et nous faisons aussi des prises en charge et encadrement des enfants non accompagnés et victimes ou qui ont été affectés par le conflit armé. En bref, c'est ça.
Bah, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, de ton expérience, quels sont les effets les plus fréquents de la violence armée sur les populations civiles et quelles catégories de personnes sont les plus vulnérables?
Les effets de la violence armée sont dévastateurs. Mmh. Et c'est un chaos où la violence détruit tout. Les familles sont détruites par la violence, les foyers et la dignité des gens est perdue. Nous avons des déplacements massifs qui sont des populations qui sont causées par cette fréquence de violences armées, et ces gens fuient sans rien, rien qu'avec la peur au ventre. Et nous avons souvent, ces gens expérimentent des violations de leurs droits, tels que de viols, de meurtres, des enlèvements, les recrutements des enfants dans les groupes armés. Ces personnes perdent tout. Ils perdent leur maison, ils perdent leurs moyens de subsistance. Et la violence armée entraîne vraiment une crise économique sans précédent. Et bien sûr, je n'aimerais pas oublier à mentionner les traumatismes psychologiques. C'est la cause aux personnes qui subissent tout ça. Mm-hmm. Et pour mentionner les catégories les plus vulnérables, Je citerai les femmes, je vais citer les femmes, les filles, les enfants, les handicapés, ainsi que les personnes de troisième âge, les personnes âgées.
D'accord.
Et les femmes et les filles sont souvent la cible de violences sexuelles et basées sur le genre. Et sont utilisées comme... Parce que les groupes armés utilisent la violence sexuelle comme une arme de guerre. Et souvent, dans la plupart des cas, vous allez voir que les femmes sont celles qui surviennent aux besoins de la famille. Une fois que la femme qui était comme celle qui survient aux besoins, une fois elle a tout perdu, et certaines femmes se retrouvent contraintes à des mécanismes d'adaptation. Certaines se lancent dans la prostitution. Elles prennent des risques. Et ceci les expose à plus de violence et à l'exploitation. Et en parlant de violence sexuelle, la semaine passée, quand on a eu à passer un appel avec toi, j'étais avec 100 femmes. J'étais avec 100 femmes que je formais en groupe de 50. Je n'ai pas été capable de comprendre comment, devant moi, je peux avoir 50 femmes qui ont toutes été victimes de violence sexuelle. On a eu à voir de femmes dans des formations, mais pas toutes étaient victimes de violence. On pouvait avoir une dizaine, une vingtaine, mais la semaine, ces deux dernières semaines, 50 femmes qui disent « j'ai été violée ». Et comment ont-elles été violées? En allant chercher à manger, en allant dans les champs, elles rencontrent de bandits qui abusent d'elles, d'autres qui, dont le bandit rencontre dans les maisons. C'est pas loin de là où je suis, c'est dans ma ville, dans la ville de Goma, dans les périphéries. Et elles disent, ok, on dormait et les bandits ont fait incursion dans notre maison. Ils nous ont demandé de l'argent et les téléphones, on n'en avait pas. Et ils ont abusé de moi, devant mon mari, devant mes enfants. Et c'est pas une qui les dit, elles ne les disent pas par plaisir. Pourtant, prononcer et dire que j'ai été victime de violence sexuelle, c'est quelque chose qui est vraiment lourd, mais en essayant de gagner leur confiance, puisque la formation était au fait chercher à guérir leur traumatisme, elles ont pu comprendre que c'est très important de pouvoir parler, d'exprimer leur douleur. Et là, ça m'a fait tellement mal de voir que comment les gens sont en train de souffrir tellement à ce niveau. Et vous imaginez quelqu'un qui a subi des viols, le mari l'abandonne, et c'est tout. Elle est abandonnée, le mari part parce qu'il a été... Il a vécu ça.
C'est une honte.
Sa femme a été abusée devant lui sans qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Et deux fois, de ces abus, des bébés naissent. Et il y avait une dans le groupe... Pas une, mais je pense quatre. Elles avaient des bébés de moins de 2 ou 3 semaines dans leurs bras. Et elle me dit, quand je regarde ces bébés, j'ai envie de lui faire du mal. J'ai envie de l'étrangler parce que je ne sais même pas c'est qui son père. Ils étaient nombreux quand ils ont abusé de moi. Je ne savais pas quoi faire. Et l'enfant est né. Mon mari s'en est allé. Il est parti. Et la femme, vous êtes dans une formation, mais elle est perdue dans ses pensées. Elle est perdue dans ses pensées, elle ne sait même pas où elle est. Elle est perdue, elle est partie. Tu peux voir au travers de ses yeux la douleur, le désespoir, et tu dis, mais franchement, c'est horrible. Et quand la femme qui est la base de la famille, la base de la communauté est détruite, c'est tout l'espoir, tout l'avenir de toute une société qui sont anéanties. Et... On n'avait pas l'idée comment c'est. Ça nous touche même nous qui passons de journée avec ces femmes. Nous qui essayons de leur redonner de l'espoir, ça nous touche au point de manquer même le sommeil la nuit, où il faut vraiment aussi, après la séance avec ces femmes, voir qui peut t'aider. Et c'est à ces points-là que les femmes sont détruites. C'est à ces points-là que ces groupes armés utilisent les violences sexuelles comme armes de guerre. Et c'est horrible, c'est tellement horrible.
Merci beaucoup.
Désolée.
Non, je comprends totalement. C'est vrai que c'est un sujet qui est très sensible, et être amené à travailler dans ce secteur-là l'est tout autant, parce qu'on est autant touché par les histoires de ces personnes-là. Donc je comprends totalement la réaction.
Et donc je vais continuer
oui
et parler de, de cas des enfants.
Mmh.
Et les enfants aussi sont vulnérables puisqu'ils sont souvent exposés au recrutement forcé dans les groupes armés.
Mmh.
Et le plus déchirant, c'est de voir ces enfants être volés leur enfance. Des enfants qui devraient jouer au ballon se retrouvent avec des armes. Et c'est une réalité qui se passe. C'est pas à dire qu'on le dit seulement, mais les enfants sont recrutés.
Mmh.
Certains sont séparés de leur famille. Ils voient leur scolarité interrompue. Les enfants, dans les zones où il y a eu des conflits, ils sont aussi vulnérables aux engins explosifs non explosés,
mm-hmm.
que ces enfants confondent aux jouets. Et les 8 derniers mois qui ont suivi, les 8 derniers mois dans la ville de Goma, nous avons eu beaucoup d'explosions où des enfants ont été victimes de ces explosions des engins non explosés, puisqu'ils allaient peut-être jouer et ils ont vu quelque chose qu'ils ne connaissent pas et ils ont dû toucher. Et là, l'électrique a explosé. Et là, nous avons des enfants qui meurent juste comme ça. Et je tiens à prendre un moment pour remercier notre partenaire Street Child UK.
Mm-hmm.
Grâce à leur soutien financier, il y a 3 mois, en avril, en mars, nous avons lancé un projet appelé Endelea. C'est un mot swahili qui signifie « continue
mm-hmm. ».
Et ce projet est une réponse d'urgence qui était axée sur la protection de l'enfant. Et ce programme a sauvé des enfants qui étaient dans un grand danger. Et quand je parle du danger, je ne parle pas de statistiques, seulement dire que
mm-hmm.
3000 enfants, 5000 enfants souffrent de ceci. Mais c'est un impact réel où même dans les salles de classe, les enfants qui sont restés, ils ne sont pas là.
Mmh.
Ils ne sont plus là puisqu'ils ont été traumatisés par les événements qu'ils ont vus, par les déplacements. Certains ne savent plus là où sont leurs pères parce qu'ils ont été séparés. Les hommes devraient fuir. Et on a eu à apporter un accompagnement psychosocial pour aider ces enfants à surmonter ces traumatismes grâce à notre partenaire financier Street Child UK. Et c'était vraiment très important qu'on puisse l'apporter puisque même dans les jeux de ces enfants, on pouvait les entendre dire « je veux te tuer
mm-hmm. ».
C'était plus des enfants. Ils n'avaient plus cette enfance, cette innocence en eux. Et certains avaient même perdu tout espoir. Et donc, l'accompagnement psychosocial a aidé ces enfants à surmonter leur traumatisme et à commencer à repenser enfants. Et non repenser comme s'ils appartenaient dans des groupes armés. Mais aussi, nous avons mené des sensibilisations grâce à ces projets au danger des engins explosifs non explosés.
Mm-hmm.
Et demander aux enfants, au cas où ils voyaient toute chose qui semblait étrange pour eux, même si ces engins explosifs non explosés ressemblent à des choses qui nous sont un peu familières,
mm-hmm.
Former un adulte. Et cela a vraiment permis de mettre à l'abri les enfants qui étaient à risque et leur donner un espace pour qu'ils puissent jouer et rêver en toute sécurité. Donc, le soutien de Street Child nous a permis de mener un programme et directement changer de vie. Et les dernières personnes que j'aimerais mentionner comme étant le plus vulnérable, ce sont les personnes de troisième âge ainsi que les handicapés
mm-hmm.
qui rencontrent des difficultés de se déplacer et de fuir les zones de conflit et qui sont souvent laissés derrière sans assistance. Ceux qui sont plus jeunes, ils disent « Ok, nous sommes désolés, on doit partir.
Mm-hmm. »
Et ces personnes dans les zones de conflit, des fois, certains meurent et d'autres vivent dans des situations de difficultés, tellement difficiles. Toutes ces personnes ont un accès limité à la nourriture. Il n'y a pas d'eau potable, pas de soins de santé. Pas d'installation sanitaire appropriée ou soit pas du tout d'installation sanitaire qui
mm-hmm.
existe. Et ça rend ces personnes vulnérables aux maladies. Donc, ce sont des vies comme le nôtre, mais
mm-hmm.
qui ils vivent sur ces terres, mais pas comme s'ils vivaient.
Mm-hmm.
C'est compliqué.
En tout cas, merci beaucoup Stéphanie pour tous ces détails que tu nous as donnés. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre la situation de chaque catégorie de personnes. Et du coup, quand on veut garantir l'accès et l'efficacité de l'aide humanitaire dans des régions qui sont affectées par la violence, comme tu l'as cité là où tu travailles à Goma, comment on peut garantir cette efficacité et cet accès à l'aide humanitaire ?
notre plus grand défi, c'est de pouvoir atteindre ceux qui sont en besoin. Mm-hmm. Et il n'y a pas de solution miracle. Mais si en ayant un engagement constant, nous avons quelques actions que nous menons, et parmi lesquelles nous commençons par la négociation et les dialogues constants. Mm-hmm. Nous nous rassurons avant d'aller dans des zones de conflit. Nous négocions et dialoguons avec toutes les parties au conflit, que ce soit le gouvernement ou les groupes armés, puisqu'on ne peut pas avoir accès à certaines zones si on n'a pas autorisation. Mm-hmm. Donc, nous cherchons d'abord à obtenir l'autorisation de pouvoir circuler et de pouvoir livrer de l'aide en toute sécurité. Et c'est là, il faut vraiment s'appuyer aussi sur le respect du droit humanitaire international. Mais aussi, nous rassurons qu'en tant qu'humanitaire, d'avoir une stricte neutralité et impartialité. Mm-hmm. Et donc, nous devons nous rassurer que nous fournissons de l'aide uniquement en fonction de besoins. On n'a pas de distinction politique d'appartenance. On ne le fait pas par appartenance religieuse ou ethnique. Et cela nous permet de pouvoir maintenir et gagner et maintenir la confiance de toutes les parties. Mm-hmm. Donc, on ne prend pas parti, on ne prend vraiment pas parti, jamais. Donc, on ne dit pas que nous sommes de ces camps ou de l'autre camp. Notre seul camp, c'est celui des civils. Les civils ont besoin. Et notre impartialité, c'est celui qui nous donne un laissez-passer. Il nous permet de pouvoir nous déplacer et d'agir en toute sécurité. Car si toutes les parties savent que notre motivation est d'aider les plus vulnérables, ils nous laissent passer. Mais si l'un des parties comprend que nous soutenons cette autre partie-là, là, nous ne pouvons pas avoir accès. Et nous faisons aussi cela en nous rassurant de renforcer nos partenariats locaux. Nous travaillons avec les communautés locales parce que c'est eux qui connaissent le terrain, mm-hmm. et ils sont capables d'identifier les zones à risque. Parce que malgré que nous avons eu autorisation, malgré que nous avons pu négocier l'accès, ou même si nous avons la stricte neutralité, nous sommes neutres, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de zone à risque. Il y a mm-hmm. toujours des zones à risque. Ainsi, les leaders locaux ainsi que les communautés local, nous aident à identifier, ils savent les zones à risque et nous travaillons avec eux. Et donc, il faut que nous puissions d'abord développer que nous puissions avoir leur confiance et c'est la confiance que ces populations locales nous donnent, nous permet à ce que nous puissions avoir accès. Mm-hmm. Et maintenant, pour garantir, assurer l'efficacité de l'aide, tout dépend de la pertinence et de la bonne gestion. Premièrement, nous rassurons en apportant de l'aide que nous avons une coordination solide. On ne peut pas travailler en solo. Nous coordonnons avec d'autres organisations pour nous assurer que chaque effort compte et que personne n'est laissé pour compte, mm-hmm. et pour éviter aussi la duplication des efforts. On ne peut pas se concentrer seulement sur un certain groupe, que tout le monde vienne et se concentre sur ça. Mais en travaillant en collaboration et en coordination, nous essayons de combler les lacunes et s'assurer que l'aide est arrivée aux personnes les plus vulnérables, même dans les zones les plus isolées. Mm-hmm. Et donc, ce travail, c'est un travail d'équipe pour que l'aide soit le plus efficace possible. Mm-hmm. Et en donnant de l'aide, nous devons aussi continuer à faire l'évaluation de besoins. Nous devons comprendre et quels sont les besoins réels de la population, mm-hmm. et rendre nos programmes flexibles et s'adapter facilement à la situation qui peut évoluer constamment. Et nous rendons l'aide plus efficace quand nous rendons les communautés aussi actrices. Donc, la mission est bien sûr d'aider les gens à se relever avec dignité. Donc, on doit tout faire pour que l'aide soit adaptée à leur situation, mm-hmm. et que l'aide soit, soit respectueuse. C'est ce qui fait la différence entre une simple assistance et un véritable soutien.
Bah, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces explications, Stéphanie, très pertinentes d'ailleurs. Et du coup, pour parler un peu plus là de la question des humanitaires, notamment du coup de ton travail, comment vous pouvez garantir votre sécurité et aussi votre neutralité, comme tu as pu aussi l'aborder un peu juste avant, pour intervenir efficacement auprès des populations touchées sans être, voilà, perçue comme une partie prenante ou comme le soutien d'un camp.
La question, c'est de savoir comment rester neutre dans un contexte de conflit. Et ce n'est pas un manque de conviction, parce que des fois, il y a ces choses-là que c'est difficile de consommer. Mais au contraire, ce n'est pas un manque de conviction, en fait. C'est au fait le choix le plus difficile. C'est le choix le plus difficile, rester neutre. Pour nous, les humanitaires, la neutralité, c'est une nécessité. C'est la seule façon que tu peux te faire accepter par toutes les parties qui sont au conflit. Et d'avoir la possibilité d'intervenir auprès des populations dans le besoin. C'est ce qui nous donne la force, car la neutralité nous donne le droit d'être partout où on a besoin de nous. En arrivant, par exemple, dans une zone divisée par deux groupes, on ne demande pas, tu es de quel côté? Tu es de quel groupe ethnique? On se concentre plutôt sur le besoin. On donne de la nourriture, on dit, cette femme, ça c'est une mère, elle a faim. Ça c'est un vieil homme, il est seul et cet enfant est malade. Donc on ne demande pas d'où vous venez. Et c'est ce qu'on appelle l'impartialité en action. En étant neutre, on se rassure de ne pas prendre position telle que je l'ai dit. Et je bel et bien mentionné que c'est moralement difficile de le faire. Mais c'est le seul moyen qui peut nous... Le seul moyen d'assurer que notre travail est fait de manière juste et équitable. Oui. Donc, il y a des moments où on a envie de crier notre indignation. Mais on voit les choses, quand on voit des choses horribles, on a envie de dénoncer. Mais si on le fait, on sera vu comme des ennemis. Et la prochaine fois, on ne pourra plus revenir pour aider les civils. Donc, la neutralité, c'est se taire pour mieux agir. Et pour garantir notre sécurité, et notre neutralité, nous, en tant qu'acteurs humanitaires, nous nous appuyons sur les principes fondamentaux des actions concrètes. C'est la seule façon d'être accepté par ces parties et de pouvoir intervenir. C'est donc ça. Intervenir auprès des populations dans le besoin, c'est ce qui est notre priorité. Maintenant, nous, en tant qu'humanitaires, nous devons aussi garantir la sécurité de notre personnel, mais aussi de nos bénéficiaires. Tel que je l'ai dit, nous devons négocier l'accès et les conditions d'intervention. Avant de mettre le pied dans une zone à risque, nous passons des heures de négociation. Nous allons à gauche, à droite, qui est-ce qui est chargé de ceci, de cela, et nous demandons de l'autorisation. Nous parlons à tout le monde, nous parlons à tous les côtés. Ces gens sont des ennemis et d'autres, mais nous devons leur parler. De fois, on est obligé d'aller parler à ceux qui nous font tellement peur pour obtenir un simple laissez-passer. Et le but, c'est quoi? C'est aller chercher les gens qui souffrent. Nous nous assurons d'abord que nous avons obtenu des garanties de sécurité. Donc, on ne peut pas aller dans une zone si nous n'avons pas été autorisés par ceux qui contrôlent la zone. Donc, le départi, d'un côté ou un autre, nous devons d'abord avoir la garantie de sécurité. Mais aussi, nous assurons d'avoir une approche de sécurité rigoureuse. Et cela inclut de protocoles de sécurité stricts. Par exemple, il y a certains, nous devons éviter des zones de combat, des zones en plein combat. Quand il y a la guerre en plein combat, on ne doit pas y aller. Et les déplacements se font souvent en convoi. Et nous mettons, nous avons des mises en, de systèmes d'alerte qui ont été mis en place. Parce que la sécurité de notre personnel est vraiment une priorité absolue. Donc, un plan détaillé de sécurité est mis en place. Et s'il faut une évacuation et une communication, elle est faite. Une évacuation d'urgence doit intervenir, elle est faite. Donc, les déplacements, nous avons des règles de déplacement très strictes, telles que pas de déplacement de nuit. Nous avons des aires sécu où il y a des zones on ne peut pas aller dans des zones à telle heure, on ne peut pas quitter des zones après telles heures. Donc, nous utilisons une route sécurisée et avons obligatoirement une communication de notre itinéraire. C'est donc ça.
Bah, encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Stéphanie. Et pour rester sur le sujet de la violence armée, même si on sait voilà, que la réduction de la violence armée est une question politique, comment les humanitaires s'adaptent-ils à des contextes de violence extrême, comme tu as pu le citer juste avant, ou comme voilà, et c'est le cas de la zone où tu interviens actuellement. Du coup, comment ils s'adaptent à ces contextes de violence extrême pour maintenir leurs actions et mais aussi protéger les civils?
Étant humanitaire, on ne peut pas arrêter la guerre. La guerre, la violence armée, c'est une question politique et ça nous dépasse, nous, en tant qu'humanitaires. Notre rôle, n'est pas de faire la paix, mais d'être là où les gens ont besoin. D'être là où les gens sont en train de subir les conséquences de cette guerre. Mmh. Et pour nous, être humanitaire, c'est décider de ne pas baisser les bras. Alors, nous, on s'adapte. Souvent, je dis, les humanitaires ne se battent pas avec les armes. Ils se battent pour apporter de l'aide. Mm-hmm. Et la première des choses que nous devons faire, je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est gagner la confiance des communautés et de toutes les parties au conflit. Et pour cela, notre meilleure arme, je l'ai dit encore, c'est la neutralité. On ne prend jamais parti. On ne se range pas derrière un camp. La priorité pour nous, c'est aider ceux qui sont en besoin, sans distinction. Et cela demande beaucoup de courage, mais cela est notre seule chance d'accéder aux victimes. Maintenant, quand il y a des conflits, on doit s'adapter pour survivre. Sur les terrains, la sécurité est notre priorité absolue. On ne peut pas aider les gens si on ne se protège pas nous-mêmes. Mm-hmm. Alors, on met en place des mesures très, très concrètes. On ne se déplace jamais de nuit, je l'ai dit plusieurs mm-hmm. fois. Donc, on doit se rassurer qu'il y a une communication. On s'appuie sur une connaissance fine du terrain. Où est-ce qu'il y a maintenant, où est-ce que les combats ont éclaté, dans quelle zone est-ce que les combats ont éclaté? Mm-hmm. Si nous avons une intervention dans cette zone-là, peut-on d'abord l'interrompre? Donc, on est en contact permanent avec les communautés pour que nous puissions comprendre en temps réel les zones où il y a vraiment le danger. Mm-hmm. Mais la violence ne nous arrête pas. Elle ne nous arrête pas. Après que le combat prenne fin, mm-hmm. on est obligé d'être encore plus créatif.
Oui.
On est prudent, bien sûr, en tant qu'humain. Mais on ne peut pas tout changer. Mais on peut être la lumière dans l'obscurité. Donc, on fait les petits gestes. On est juste à chaque fois aux aguets. On intervient, il y a une trêve, on peut intervenir. À quel niveau peut-on intervenir? Et c'est comme ça que nous faisons. On ne laisse pas la violence nous arrêter.
D'accord. Et du coup, pour terminer, Stéphanie, comment gérer les tensions entre les besoins humanitaires qui sont immédiats, suite voilà, au début d'un conflit armé, et les projets pour la paix, pour la sécurité ou encore pour le développement qui avaient été mis en place avant le début de ce conflit?
C'est une excellente question parce qu'elle touche au cœur de tout ce que nous faisons. En tant qu'humanitaire, on est constamment pris entre deux feux. Mm-hmm. L'urgence qu'on a aujourd'hui et la paix de demain. Et pour nous, il est très important de lier l'aide humanitaire d'urgence à la construction d'un futur plus stable. Mm-hmm. Maintenant, comment faire face à l'urgence de la faim tout en construisant un avenir où la faim n'existe plus? Mais ce que moi, j'ai à remarquer, avec des gens qui subissent de violences, qui traversent des traumatismes, il y a cette pensée d'un avenir meilleur. C'est comme s'il est chat, il est fermé, il n'existe plus. Les gens deviennent comme s'ils sont dépendants. Ils ne pensent pas à un avenir meilleur. Mais en permanence, ils sont là en train de penser à quelle est la pire des choses qui va arriver la seconde suivante. Mm-hmm. Maintenant, sur le terrain, nous avons deux réalités. D'un côté, nous avons l'urgence. Il y a l'enfant qui n'a pas mangé depuis des jours. La famille qui a tout perdu. La maman qui a besoin d'un abri. Et nous, en tant qu'humanitaires, on n'ignore pas ça. On ignore qu'il y a le besoin. Mais on voit aussi leur dépendance à cela. Maintenant, on ne peut pas ignorer leurs besoins. Et notre premier devoir, c'est de sauver de vie. Alors, on donne d'abord le bol de riz pour que l'enfant vive encore quelques jours de plus. Mm-hmm. On donne de l'eau, on donne une tente. Là, c'est l'urgence qui ne peut pas attendre. Maintenant, nous savons, tel que je l'ai mentionné, nous savons qu'en ne faisant que cela, on risque de créer une certaine dépendance. Mm-hmm. Et bien sûr, de fois, la dépendance crée de ces rythmes-là. Ils n'entendent que de l'aide, que l'aide vienne encore et encore et ne font rien.
Mm-hmm.
Maintenant, le risque est que notre aide, au lieu de les libérer, les emprisonne dans un cycle de misère.
Mm-hmm.
Cycle de misère et de dépendance. Maintenant, dès le premier jour, on ne se contente pas que de distribuer. On se pose la question aussi de comment est-ce que nous, ce que nous faisons aujourd'hui va aider à construire un avenir. Maintenant, pour nous, l'aide n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Alors, on s'est rassuré de pouvoir aider, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes. Ils reçoivent de l'aide, bien sûr, pour encore vivre quelques jours de plus, mais qu'on travaille sur leur mental. Pour moi, j'ai trouvé que c'était très important qu'on travaille sur leur mental. Et je me suis focalisée les derniers mois sur les femmes. Tel que je l'ai dit, c'est dans la plupart des cas, c'est elles qui subviennent aux besoins de famille.
Mm-hmm.
On s'est focalisé sur d'abord leur guérison des blessures. Elles sont traumatisées et c'est comme si tout s'est arrêté. Elles sont chattes.
Mm-hmm.
Il n'y a plus rien. Elles ne réfléchissent plus. On sait maintenant, je me suis dit, c'est important de se focaliser sur la guérison de leurs blessures et de pouvoir leur donner de l'espoir et leur faire penser à un avenir meilleur. Une fois elles pensent à un avenir meilleur, elles peuvent comprendre qu'il y a quelque chose en elles qu'elles peuvent donner, pas seulement à elles-mêmes, mais aussi à la communauté.
Mm-hmm.
C'est ça le premier pas à dire, ah, je peux faire quelque chose. Je ne peux pas seulement croiser mes bras et attendre. Bien sûr, c'était des personnes, quand ces personnes ont fui, c'était des gens qui savaient chercher pour elles-mêmes. Elles allaient au champ. Ce sont des gens qui faisaient des petits commerces. Mais une fois, le traumatisme est arrivé. Le traumatisme de guerre est arrivé. Il n'y a plus ça. C'est devenu, on va apporter.
Mm-hmm.
Maintenant, une fois elles guérissent du traumatisme, une fois on leur fait voir qu'il y a de l'espoir pour le lendemain, elles commencent à penser comment je peux aussi subvenir aux besoins de ma famille. Ainsi, nous avons des programmes où nous formons les femmes, nous formons les hommes, pour qu'ils soient capables aussi de pouvoir faire quelque chose pour eux-mêmes. Et quand c'est possible, nous leur donnons quelques moyens de subsistance.
Mm-hmm.
Certains, on leur donne des semences ou des outils, et en fait, pour leur apprendre à faire quelque chose, pour qu'elles puissent elles-mêmes chercher de la nourriture. Comme on dit, au lieu d'apprendre à quelqu'un, au lieu de donner à quelqu'un un poisson, vaut mieux lui apprendre à pêcher. C'est ce que nous faisons. Et c'est pareil pour l'eau. Il y a des zones où on a besoin au lieu d'apporter chaque fois des camions, on leur demande que la communauté s'implique pour chercher de l'eau, comment construire son propre puits. Et donc, pour moi, gérer cette tension, c'est voir au-delà de l'urgence. Mais c'est rassurer qu'on a investi dans l'humain.
Mm-hmm.
Alors, c'est croire que les gens ont la force de se relever. Donc, notre rôle en tant qu'humanitaire est de leur donner tout ce qu'ils ont besoin comme outils, en commençant bien sûr par la guérison du traumatisme. Je martèle toujours par ça.
Mm-hmm.
Les traumatisés ne pensent pas au lendemain.
Oui.
Et donc... On leur donne on leur offre cette guérison et après, on leur donne tous les outils dont ils peuvent avoir besoin pour qu'ils puissent accomplir quelque chose. Donc, cette démarche va au-delà de la simple assistance. C'est une démarche qui redonne de la dignité et de l'espoir et un avenir.
Stéphanie, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces informations. Merci également pour cette pensée positive pour terminer et pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur le travail que tu as fait et que tu es amené à faire avec ceux de ton ONG et de l'ONG partenaire, ils pourront retrouver toutes les informations sur la note écrite de cet article.
Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Paroles d'Humanitaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à soutenir cette initiative en la partageant autour de vous. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur Paroles d'Humanitaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.